On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
Un soleil au zénith et une chaleur écrasante.
Adieu le risotto ou les plats en sauce. Ce que veulent les clients quand il fait chaud, c'est avant tout...
Voilà, une salade niçoise, impeccable.
En ce moment, je ne mange que des fruits et légumes froids.
Et c'est un bon réflexe en période de canicule.
C'est fini ! La France est championne du monde !
Puis au mois d'août, les orages ont balayé le sud de la France avec des pluies torrentielles.
Il était l'une des figures de la gastronomie française, Joël Robuchon, génie de la cuisine, adepte du manger sain, chef multi-étoilé. Il a bouleversé les codes de la cuisine.
Bonjour à toutes et tous, comme on est content de vous retrouver, chers gastro-auditeurs et gastro-auditrices. Nous sommes en direct depuis le studio 521 de la Maison de la Radio pour entamer une nouvelle saison dont va déguster au menu, toujours la même recette qui gagne, des saveurs, du savoir et de la bonne humeur. En ce dimanche de rentrée, on a décidé de garder un pied en vacances. On vous fait partager nos petits plaisirs de l'été, de bonnes adresses, des recettes inratables, des initiatives intelligentes. On fait le plein de découvertes avec aujourd'hui trois de mes chroniqueurs et chroniqueuses, Elvira Masson, Esther El Payani et Antoine Gerbel. Bonjour les amis.
Bonjour, bonjour à tous.
Comment
bonjour,
vous allez bonjour. Avoir vos bien. Mines allées.
On
ça a l'air d'aller.
Ah bah oui, on est ravis d'être là, non?
Vous êtes tout bronzé. Ouais, vous êtes ravis d'être là. Et ben moi, je suis ravi que vous soyez là. Cet été fut également marqué par la disparition d'un des plus grands noms de la gastronomie française. Joël Robuchon s'est éteint le 6 août dernier, à l'âge de 73 ans, plongeant le milieu toqué dans la tristesse. Pour rendre hommage à Monsieur Robuchon, mais aussi pour percer le secret de quelques-unes de ses recettes cultes, on a le plaisir de recevoir l'un de ses fils de cuisine, Frédéric Simonin. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va très bien, merci.
Votre restaurant porte votre nom. Il est situé dans le 17e arrondissement de Paris. Vous nous en rappelez l'adresse?
25 rue Bayen.
C'est ça. Vous avez 2 étoiles au guide Michelin tout de même. Vous maîtrisez parfaitement votre répertoire Robuchon, évidemment, et notamment une certaine purée de pommes de terre sur laquelle on va s'attarder un peu.
Oui.
On ne change pas l'équipe qui gagne derrière la vitre de la régie, Laurent Thomas à la réalisation, avec aujourd'hui à la technique Nasser Moussaoui, Nadia Chougui pour la préparation et l'animation de notre site internet, Djoubaka pour la programmation musicale. Réagissez en direct dans l'émission depuis l'application de France Inter, mais également sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com ou sur Twitter, avec le mot-clé « On va déguster ».
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
La fine équipe dont on va déguster est évidemment partie en vacances, mais sans vraiment avoir les papilles en vacances. Allez, un petit tour de table. S'il fallait, chers amis gastronomes, retenir une seule table, une petite adresse dégotée au fil de vos pérégrinations, une adresse qui a séduit votre palais cet été. On commence avec Elvira, à ma gauche. Vous avez vécu un véritable rêve champêtre.
Ah, c'est exactement ça. Je suis allée me mettre au vert quelques jours au cœur d'un domaine de 8 hectares de prairies et de forêts dans ce paysage si joyeux et si riant du Perche. C'est un hameau de 5 bâtiments de pierre blonde du XVIIe siècle qui répond au doux nom de Dunil.
Ah, ça me dit, ça me dit quelque chose,
non ? Oui. Ce hameau, en fait, c'est une chambre et une table d'hôtes qui ont été créés il y a quelques années par un couple de Hollandais.
Mm-hmm.
Lequel couple de Hollandais vient de passer la main à un duo que vous connaissez en effet, Bertrand Grébaud et
oui.
Théo Pouria, le duo qui pilote les restaurants parisiens Septime et Clamato. Alors c'est une vingtaine de tables, plus les chambres bien sûr, mm-hmm. un potager qui sont en train de créer, des ruches, les plus jolis produits du coin, et en cuisine, un duo hyper talentueux, des jeunes chefs, Fanny Père et Valentin Burtou, ils ont 25 ans. Ils ont été formés par Théo et Bertrand, rue de Charonne, à l'adresse de Septime et Clamato.
Mm-hmm.
Ils balancent des petites assiettes très inspiré, plein de vivacité, tout ce qu'on aime. Quelques exemples comme ça, pressé de lapin moutarde, pickles, poularde au foin, sucrine rôtie et brebis chaud, aubergine rôtie, faisselle bourgeon d'épicéa, le pain est fait maison.
Ah, cuisine de campagne.
Cuisine de campagne avec des produits du cru et du potager. Pas de four à bois, mais le pain est fait maison en cocotte. Ah oui, une île flottante aussi et caramel infusé à la feuille de figuier. Une brioche le matin, mais comme un nuage, comme une caresse qui sent bon le beurre. Des tartes aux fruits préparées par Fanny, mais des tartes somptueuses. Et aussi une tarte salée, qui fait absolument mouche. Tarte à temps de fenouil. J'ai pensé que ça vous plairait, François Régis. Je vous ai vu poster sur Instagram pas mal de tartes salées.
Oui, j'étais très tatin cet été.
Une tatin d'aubergine, non ? Qui me faisait un peu de l'œil.
Oui, une tatin d'aubergine. On expliquera la recette un jour. Mais en tout cas, la tatin
salée,
oui.
C'est le truc du moment. Donc, une pâte à tarte toute simple, un fenouil blanchi à l'eau, salé, cuit au four dans de l'alu, puis rôti, détaillé en deux ou en quatre au beurre dans un sautoir avec des herbes. Mm-hmm. On dispose la face du fenouil rôti
dans un moule,
dans un plat recouvert d'un petit peu de sucre. On sale, on étale la pâte dessus, on fait un petit trou au milieu de la pâte pour que l'air s'évacue.
Pâte feuilletée, hein.
C'est une pâte maison, oui, beurre, d'accord. Farine, lait, jaune d'œuf, sucre, sel.
Ah, vous êtes allé leur estorquer la recette ?
Vite fait, j'ai eu les grandes lignes, ils sont pas fous.
Et elle est où ?
Ben elle est,
non, elle est dans votre
elle est quelque part, oui, là-bas. Vraiment une merveille de table champêtre. Où il
un
faut
petit
s'être...
écosystème qui s'appelle donc Dunil et qui est en plein cœur du parc naturel du Perche.
Exactement, on est à du côté de Rémalard.
150 km de Paris.
Exactement. Hein. Le lieu-dit s'appelle Launay et c'est à un quart d'heure de Rémalard.
Parfait.
Dunil.com, allez-y.
Merci beaucoup Elvira, oui, ça a l'air d'être
une merveille.
Tout à fait enthousiasmant. Estherelle, alors, vous travaillez pour l'hebdomadaire Télérama en tant que critique restaurant et vous êtes donc assez incollable sur les adresses parisiennes. Vous avez dégoté une petite pépite.
Mais moi, j'ai eu des envies de cuisine du soleil, bien évidemment, pour prolonger un petit peu les vacances. Alors, j'ai déniché un petit restaurant tout bleu dans la jolie rue Paradis qui porte si bien son nom, à la lisière du 9e et du 10e, dans le quartier Poissonnière. Ça s'appelle Tounsia. Et Tounsia, ça veut dire tunisienne, comme la cuisine qui y est faite et comme la joyeuse bande de filles qui anime cette petite cantine fort sympathique. Derrière le comptoir, on va rencontrer Siwar et Sarah, et en cuisine, c'est Zineb, leur maman, qui mitonnent des petits plats super parfumés, vraiment, vraiment authentiques. Dont un petit couscous, donc, comme on rêverait de croiser plus souvent, à la graine super fine, sacrément bien roulée, qu'on peut déguster simplement aux légumes avec des merguez ou même avec du poulpe.
Oh là là, extraordinaire.
Et ouais, un couscous de poulpe, moi je savais pas que ça existait.
Formidable.
En fait, hein, c'est une spécialité des Kerkena. Les Kerkena, c'est des îles au large de Sidi Mansour dans la région de Sfax. Et c'est là d'où est originaire leur papa et Marie.
C'est
donc
ça.
C'est
on
vraiment, vraiment des recettes familiales. Vous pouvez les manger. On aimerait d'avoir quelqu'un comme ça en bas de chez soi tous les jours, justement.
Ah, couscous de poulpe, moi j'y vais. Hein.
Ça change des boulettes. Le bouillon est super épicé, c'est fondant, il y a de la mâche. Et en fait, c'est encore un peu les vacances quand on le mange. Voilà, c'est
l'addition
ouvert. C'est moins de 20 euros. Donc c'est vraiment une cantine pour aller déjeuner. C'est ouvert toute la semaine et aussi le samedi.
Vous nous en donnez l'adresse ?
55 rue de Paradis, Tounsia, dans le 10e.
Une petite gargote parisienne franco-tunisienne, c'est une histoire de famille et une histoire de femme.
Exactement.
Très bien, merci pour ce très bon conseil Estherelle. On va y aller évidemment sur votre recommandation. Antoine Gerbel, alors vous vous êtes baladé, si je suis bien informé, en Saône-et-Loire, notamment, hein, parce que j'ai vu votre trip sur les réseaux sociaux, vous en avez fait du voyage. On est entre Mâcon au sud et Chalon-sur-Saône au nord, où ça exactement ?
Alors à Tournu.
Ah.
Tournu ou Tournus, puisqu'on est vraiment à la frontière du nord et du sud de la France, donc on accepte bien évidemment les deux prononciations. Tournus, alors moi c'est un peu ma cantine de sortie et de rentrée. Je pense que c'est le dernier magnifique repas que j'ai fait avant les vacances et le premier magnifique repas que j'ai fait avant la rentrée. Voilà, c'est bien évidemment ma cantine de luxe. Elle est de luxe parce qu'elle est toilée, mais on s'y sent tellement bien. Moi, j'ai rarement, c'est vrai, l'occasion d'être aussi détendu et aussi en appétit devant une table. Je veux parler de la table d'Amandine et Jean-Michel Carrette.
Eh ben oui.
Nous sommes aux terrasses, aux terrasses. Alors aux terrasses, c'est vraiment tout est dans l'humain. On a un grand chef avec nous ce soir. Il va nous raconter ça.
Il en a entendu parler, Frédéric Simonin, de Tournus, oui. Monsieur Carrette.
Oui, oui, bien sûr.
Vous alors, êtes attablé?
Non, pas du tout.
Alors les premiers qui m'ont parlé de Jean-Michel sont bien évidemment des vignerons. Vous savez que ce sont quand même mes stingers, mes chasseurs d'adresses, les vignerons qui aiment bien manger, bien boire. On a une carte magnifique de vins. Je passe vite fait sur les vins. Il y a toute la belle Bourgogne et le beau Beaujolais qu'on aime bien, qui nous touche souvent des vins nature. Progresse, il y a un chouette sommelier, mais il y a surtout Jean-Michel en cuisine qui est d'une incroyable inventivité. C'est un enfant des trois gros. Hein. Son papa était déjà restaurateur. Il a repris la maison de son père qui a disparu bien trop tôt et il s'est mis au four. Et c'est quelqu'un qu'on voit travailler, un peu sué, mais avec un sourire, une énergie incroyable. Et ça se sent dans l'assiette. Quand cet été, je vois le service arriver avec une petite table, je dis tiens, j'ai pas commandé de découpe, de poisson, de viande. Non, c'était une salade de homard, avec un grand saladier, avec de l'huile d'olivège, des échalotes crispy, qui est préparée devant vous, comme Demaine faisait à la grande époque. Et donc, il réinvente plein de petites choses, mais toujours est très frais, toujours les produits sont très frais, tout est toujours dans le croquant, et la cuisson est parfaite.
Avec du geste en salle.
Avec du geste en salle, avec une belle salle. Amandine en salle, elle a le sourire. Alors, c'est toujours des salles, vous savez, j'aime ces salles un peu en région, c'est que la moitié, c'est des copains ou des gens des habitués, puis l'autre moitié, c'est du passage, et la mixité se passe bien. On n'a pas cette frontière un peu qu'on voit un peu trop à Paris, où on a l'impression que tout le monde se regarde en chien de faïence. Là, c'est de la détente. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette adresse. Je citerai encore les pommes de terre nouvelles délicatesse à la crème d'huître, avec de la poutargue.
Il y a une salade de pommes de terre nouvelles, justement, préparée, sans vouloir spoiler l'émission, d'Elvira Masson, une petite salade inspirée par Joël Robuchon qu'on va déguster dans un instant.
Il y a un pigeon magnifique, et puis il y a aussi les volailles de notre cher Ruchotte.
Et oui,
la Fred ferme Ménager. De Ruchotte.
Frédéric
parce que
Ménager.
Il y a aussi une partie de la carte, c'est Hommage à mon père, où il y a un pâté en croûte, un chausson de canard et un poulet de Bresse. Voilà.
Le menu,
il est un peu élevé, c'est 6 plats, mais à 65 euros. Mmh. Je pense, pour moi, c'est vraiment dans le panthéon des meilleurs rapports qualité-prix de la grande cuisine française.
Ça représente un certain budget pour les grandes occasions, une adresse étoilée à Tournus dans la belle tradition française.
J'ai des goûts de luxe. Hein.
Ben, je vois ça, vous allez vous faire des amis auprès de nos auditeurs, cher Antoine. Alors moi, je vous propose une adresse beaucoup plus modeste justement pour contrebalancer. J'ai passé quelques jours heureux au mois d'août dans le département du Gard et je suis passé par Tavel, une commune à 20 km d'Avignon. Alors c'était pas pour remplir le coffre de ma voiture de bouteilles de rosée. Ce n'est pas à Antoine Gerbel que je vais apprendre que Tavel s'est autoproclamé capitale française du vin rosé, mais c'est pour m'attabler dans un restaurant qui s'appelle La Courtille. La Courtille, dans un français un peu oublié, c'est un enclos, un jardin champêtre attenant à une maison. Bah là, on y est totalement. Imaginez une splendide magnanerie. Vous savez, là, c'est ce bâtiment dont la vocation était la production de verre à soie. Un très beau bâtiment du 19e siècle qui déroule un immense patio en gravier à l'ombre d'un cèdre plusieurs fois centenaire. Très très belle atmosphère de charme. Et c'est dans ce lieu qu'un duo de jeunes cuisinières tient encore une affaire, une histoire de femme, Esterel, dresse le couvert. Marie Lézouret et Natalia Crozon. Elles ont moins de 30 ans, elles ont été formées aux côtés d'une chef que vous connaissez évidemment, une espèce de mère cuisinière très réputée à Paris, Raquel Carena, la chef du Baratin, 20e arrondissement de Paris. Marie et Natalia tricotent ensemble une cuisine simple, du quotidien, une cuisine que j'ai envie d'appeler de la cuisine de ménage, qui déménage. Vous voulez des preuves ?
Oh oui !
Salade de haricots coco et poivrons confits, relevée d'un excellent pistou frais. Des travers de cochon de montagne confit avec un jus bien réduit, juste posé sur une généreuse écrasée de pommes de terre. Tiens, encore de la patate. Mmh. Et en dessert, trois figues noires de pays, juste pochées au vin rouge. Ces trois plats étaient dans une formule à 18 euros. Au déjeuner, et l'autre excellente nouvelle, c'est que Natalia, l'une des cuisinières, partage la vie, ça va vous intéresser Antoine Gerbel, de Thibaut Pifferling, le fils aîné d'Éric Pifferling, le grand vigneron du domaine de Langlore à Tavel, dont on adore les vins. Les vins de Langlore, on les aime, pourquoi ? Parce qu'Éric Pifferling est un horloger du vin, qui relève sur chacune de ses cuvées le défi de faire à la fois des vins de grande précision, avec un équilibre parfait, entre la finesse et la gourmandise, la buvabilité, vous êtes d'accord ?
Oui, il redonne ses lettres de noblesse à ces vins du Sud, qui sont souvent aujourd'hui un peu trop dans l'alcool, un peu trop dans la richesse et la concentration. Lui, c'est de la légèreté. C'est deux fils qui travaillent avec lui.
Absolument.
Qui prennent le relais. Est-ce que vous avez goûté le petit négoce appelé les Salines ?
Absolument.
Parce que l'Anglore, c'est un peu difficile à trouver. Aujourd'hui, c'est un petit peu cher. Mais il a fait un petit négoce avec un vigneron proche des Salins de Camargue. Il faut goûter ça.
Vous voyez que vous êtes raisonnable, Antoine.
Justement, vous disiez que c'est un petit peu cher et difficile à trouver. Certes, mais alors là-bas, non seulement on trouve la plupart des cuvées, ils ont pignon sur rue dans le restaurant La Courtille, mais en plus à des prix très très avantageux. La Courtille, pour savourer l'excellente popote de Marie Lézouret et Natalia Crozon, et pour glouglouter aussi les vins de Langlore, c'est à Tavel, du lundi au vendredi. Toutes les précisions sont à retrouver sur franceinter.fr, à la page on va déguster. Cuisinons comme Joël Robuchon, c'est dans un instant, après le titre Woman de Cat Power et Lana Del Rey, on va déguster, fait sa rentrée sur France Inter.
If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know, more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, see you talking in circles. Thoughts running in circles. I walk around all day long, following me. The doctor said I was better than him.
weapon, a tool for me. You think I'm like the other ones? Well, my cage is a weapon, it's perfect for me. It's the one suit they seem to now see. I'm a woman of my word, not having you heard. My word's the only thing I'd ever needed. I'm a woman of my word, now you help her. My word's the only thing I truly need. Woman, 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 woman.
Oui, chef. Oui, chef. Ça marche.
Ça marche, chic ouvert, une gelée de caviar, une tarte friande, un raviolis de langoustine, dégustation 3 pièces, une frivolité de saumon fumé, deux foies gras chaud à la crème de lentilles, poursuivre un rouget aux épices, un blanc turbo au petit pois, une tourterelle d'agneau, un agneau aux herbes, une couée de rognon gris de veau et un veau cuit à l'étouffée.
Ça marche.
Cette semaine, nous accueillons Joël Robuchon. Bonjour Joël.
Bonjour, bonsoir.
Merci d'être dans la cuisine de FR3. Une petite question, vous êtes cuisinier à Paris. 3 étoiles au Guide Michelin en 3 ans, un palmarès de champion du monde. Alors comment on fait pour devenir grand chef?
Non, mais déjà une grande toque, ça me grandit.
Oui.
Non, mais je crois qu'il faut commencer son métier très jeune, il faut circuler, il faut apprendre son métier, il faut connaître chaque région. Vous savez qu'il y a une cuisine de terre, de ciel, de mer. Manger une choucroute en Alsace, ça n'aura pas le même goût manger en Alsace que manger sur la Côte d'Azur. Une bouillabaisse mangée sur la Côte d'Azur n'aura pas le même goût. Donc il faut connaître les produits du terroir, chaque terroir, le meilleur produit. Il faut aimer son métier, essayer de le faire toujours au mieux et apprendre au mieux.
Alors aujourd'hui, quelle est la recette?
On va commencer, il y a la salade pastorale aux herbes.
Alors quel est le secret de la pastorale?
La réussite, c'est de ramasser toutes les herbes du jardin et de toutes les mélanger. En fin de compte, c'est une salade d'herbes. Il y a de la nette, du cerfeuil, là tu connais?
Non.
De la marjolaine, du basilic, de l'estragon. Là, on en met un peu moins parce que ça domine, c'est très fort. Ce sont des feuilles de menthe, de la mâche, de la salade frisée, de la trévis. Et du cresson, et on peut rajouter des pissenlits, on peut rajouter toutes les herbes qu'on aime, et on peut en mettre plus ou moins en fonction de ses goûts. Ce qu'il faut chercher dans l'originalité de la salade, c'est d'avoir des salades tendres et des salades croquantes.
Alors, le secret de la vinaigrette?
On va mettre dedans du jus de rôti.
Du rôti de porc, du jus de volaille également?
Le jus de volaille, c'est le meilleur. Après, le jus de porc, c'est le meilleur. Donc, il est tiède. Hein.
Vous l'incorporez à la vinaigrette?
Donc, on va en mettre une cuillère. Puis tiens, comme il est beau, on va en mettre un peu plus.
Oui, il est magnifique. Voilà.
En fin de compte, il y a des proportions, mais les proportions, il faut les mettre en fonction de ses goûts. Hein.
Cette recette est sur Minitel. Vous composez le code 3615 PIC3. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour un grand chef dans votre cuisine. Et Joël, quand c'est bon?
Ça peut pas être meilleur.
Voilà.
Un extrait d'un grand chef dans votre cuisine. Tout le monde salive autour du plateau d'en bas déguster. Une émission de FR3. Avec le Minitel, etc., c'est il y a quelque temps, on s'en doute, c'était présenté par François Robotte en 1987. Frédéric Simonin, toutes les belles aromatiques de l'été réunies dans un saladier. Est-ce que vous avez pratiqué cette salade d'herbe avec Joël Robuchon?
Oui, absolument. Ah. Avec un agneau pastoral.
Oui.
Alors quand il parle de secret, de fraîcheur, d'herbe, et puis qui donne toute cette variété de pousses, d'herbes aromatiques à prendre. Oui, mais ce qui faisait Joël Robuchon, c'est la pesée exacte de chaque herbe aromatique.
Ah, bon, à la maison, on ne va pas en demander autant à nos auditeurs et auditrices.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, tout ça, ça paraissait gourmand, simple, et ça l'était en soi, ça l'était même excellent. Mais pour arriver à ce degré d'excellence dans cette simplicité, c'était juste une pesée exacte de chaque herbe, c'est-à-dire 26 grammes par là, 19 grammes par là, et ça ne dépassait pas le grammage, quoi.
Vous êtes à la tête, faut-il le rappeler, Frédéric Simonin, de votre table gastronomique, 17e arrondissement de Paris. Mais vous avez été, après un brillant parcours qui vous a emmené chez le doyen, Taïvan, l'hôtel Meurice, le Georges V, l'un des compagnons de route de Joël Robuchon. C'était de 2004 à 2009. Je dirais même plus, l'un des chefs de Joël Robuchon, notamment à la table de Joël Robuchon, puis dans un atelier Joël Robuchon à Londres. Est-ce que vous diriez que la grande, grande qualité de Joël Robuchon, parmi d'autres, c'était cette espèce de précision obsessionnelle?
Ça l'était, absolument. Ça l'était. C'était l'homme. C'est ce qu'il a transmis, comme j'ai dit une fois, à ceux qui savaient l'entendre et l'écouter. Et puis c'est beau.
Hein. Fallait suivre le rythme.
Il fallait suivre le rythme. Il fallait aimer l'homme. Il fallait aimer la cuisine. Il fallait s'aimer les autres. Comme il disait toujours, dans la cuisine, pour donner du bonheur aux autres, il faut savoir aimer les autres. Voilà.
On disait qu'il était aussi d'une exigence qui pouvait confiner à une certaine forme de pression qu'il exerçait sur ses équipes. Vous en avez souffert?
Alors, j'en ai absolument pas souffert, et je le remercie aujourd'hui d'avoir eu ce chemin avec lui, parce que il a peaufiné, hein, il a poli une pierre brute, voilà ce que je dirais.
Vous étiez un diamant brut, devenu diamant bien taillé, capable de faire de très belles prouesses en cuisine. Vous nous le prouvez en ce moment précisément. Dans la main gauche, une casserole, dans la main droite, une cuillère. Il est en train de dresser des verrines. Ben oui. Hommage à Joël Robuchon. Vous nous racontez un peu ce que vous faites?
Ben oui, absolument. C'était quand j'ai eu ma première place de chef en 2001 au 16-16 et que derrière, j'ai travaillé avec Monsieur Robuchon. Je peux dire Joël d'un côté, mais surtout Monsieur Robuchon, par sa grandeur. Et ben, tout simplement, quand on a démarré à la table, il m'a dit, tu me fais plein d'essais, plein de plats, je veux goûter plein de choses. Et puis, je lui ai ramené cette petite verrine de foie gras.
C'est vous qui l'avez créé?
Alors, créer, c'est un bien grand mot.
D'accord. Hein,
j'ai assemblé.
Vous l'avez présenté.
Hein, c'est parce que moi, c'est toujours ma philosophie. Je lui ai donné, et il m'a dit, ça, tu le changes pas. Et du coup, c'est devenu l'amuse-bouche, un peu. Alors là, la mousse est beaucoup plus onctueuse maintenant.
Oh là là, je viens de goûter.
Il faut aller dans le fond.
Mais alors là, on est dans la royale, non? Dans le flan?
Ouais, c'est ça. C'est une royale de foie gras avec une réduction de Porto vintage.
Et qui puis, donne ce côté aigre-doux.
Absolument. Puis une émulsion parmesan Reggiano qui est sur le dessus, qui est fait dessus. Mmh. Donc c'est quelque chose qui les met. Pourquoi? Parce qu'il y a que trois éléments dedans.
Oui.
Voilà.
Un parfait équilibre.
Voilà. Et ça, c'était sa règle d'or. Hein.
Une texture fondante et très flatteuse. C'est profond en bouche. Vous en pensez quoi, Antoine Gerbel? Il y a du Porto. Vous avez forcément un avis?
Pas seulement. Mais surtout, j'ai un a priori puisque je déteste qu'on me serve du foie gras en pré-entrée. Chez Frédéric, on a droit à ce petit bijou et qui reste très léger. Cette mousse qui arrive. Et donc, vous pouvez réattaquer tellement de choses derrière. C'est ça que j'apprécie aussi.
Ça veut dire que Joël Robuchon était très ouvert aux propositions que ses équipes pouvaient lui faire. Ou un peu ouvert.
Ah non, il était pas un peu ou très ouvert, il était ouvert à la cuisine, hein. C'est-à-dire peu importe d'où la cuisine venait et par qui elle était présentée, il avait cette ouverture d'esprit, cette curiosité. Donc un produit qui arrivait pour lui qui lui plaisait, il allait le magnifier et puis bien sûr le faire vivre.
Cette recherche de la simplicité, ça explique aussi peut-être son attrait naturel pour la cuisine japonaise, en fait. Toute cette influence qu'il a apportée dans la cuisine française. Ce côté trois ingrédients, rien de plus, mais trois ingrédients parfaits.
Pas de fioritures.
Ah oui. Le Japon a été aussi une ligne de conduite qu'il adorait. Hein.
Une grande source d'inspiration.
Absolument.
On savait que d'ailleurs, Joël Robuchon était très présent au Japon à travers différentes adresses. Il était là-bas, il avait vraiment embrassé là-bas le statut de star. On mesure d'ailleurs l'influence mondiale de JR, si vous m'autorisez à surnommer ainsi.
JR, oui, c'est beau de dire JR.
Bon, Joël Robuchon, allez. Aux plats qu'il a créés et qui ont évidemment inspiré les chefs du monde entier. Alors vous connaissez, vous, et vous êtes bien placé pour, votre répertoire Robuchon sur le bout de la spatule. On peut citer le Merlan Colbert avec son beurre aux herbes. La crème de chou-fleur au caviar. Énorme plat au retentissement mondial, même si bon, il y a la touche du caviar qui rend évidemment ce plat pas accessible à tout le monde. Les raviolis de langoustine au foie gras, oui. Tiens, encore du foie gras. Le gratin de macaroni aux truffes et foie gras.
Oui. Ah, c'était bon ça.
Oui. Sans oublier, évidemment, une certaine purée de pommes de terre.
Et cette purée de pommes de terre, c'est vrai, a fait ma réputation. Je dois tout à cette purée de pommes de terre. Peut-être c'est un petit peu, vous savez, c'est la nostalgie, c'est la Madeleine de Proust. Et tout le monde avait en mémoire la purée de sa mère, la purée de sa grand-mère. Et de toute façon, qui n'aime pas une purée de pommes de terre?
Encore du beurre, encore. Du beurre, là.
Et aujourd'hui, vous vous rendez compte, c'était en 1981. Aujourd'hui, on me redemande encore de la purée de pommes de terre. Des clients arrivaient au dessert, ils disaient, non, on veut pas dessert, on veut remanger de la purée de pommes de terre.
On va déguster.
On prend un kilo de pommes de terre, on recouvre les pommes de terre d'eau froide, surtout pas d'eau chaude, on sale, mais surtout bien les cuire avec la peau. Parce que si on cuit la pomme de terre sans peau, à pompe l'eau, et la pomme de terre est beaucoup plus aqueuse.
On va couvrir nos pommes de terre, et on va les laisser cuire 30 minutes environ.
Et on les pèle encore chaudes. Et là, on les passe au moulin à légumes ancestral. Surtout pas le moulin électrique ou les robots, etc. Regardez la qualité de cette pomme de terre. Il reste rien dans le moulin à légumes. Hein.
Seulement de la pomme de terre.
Alors maintenant, on dessèche la purée de pommes de terre. On prend une spatule en bois, on met la casserole sur feu très doux
et on voit la vapeur, on voit l'eau qui s'évapore de la purée de pommes de terre. Ça, c'est une préparation importante pour avoir la purée bien lisse. Et là, pour un kilo de pommes de terre, on va rajouter 200 g à 250 g de beurre. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup de beurre, mais une purée avec du beurre, c'est excellent. Et puis, c'est beaucoup moins calorique que des fruits. Et une fois que le beurre est bien incorporé, il faut rajouter le sel avant de mettre le lait. Voilà. Et le lait va déterminer l'onctuosité. Alors là, c'est là qu'il va falloir la travailler maintenant énergiquement. Et lorsqu'elle va être un peu plus souple, on va la finir avec un fouet. C'est le moment le plus dur. C'est maintenant où il faut bien la travailler. Voilà, Eric. C'est bon.
Quand la patate, tubercule populaire, osait se glisser sous les cloches en argent du Jamin. Hein, le Jamin, c'est la table gastronomique que Joël Robuchon a créée en 1981. On était rue de Longchamp et c'est là qu'il a obtenu d'ailleurs 3 étoiles 3 ans plus tard, en 1984. Et il a attaqué avec ce plat qui, là aussi, a connu une carrière mondiale, cette fameuse purée de pommes de terre qui porte d'ailleurs son nom et qui restera certainement gravée à jamais dans le patrimoine gastronomique mondial. Le paradoxe, c'est que cette pomme de terre est très connue dans le monde entier. Et en même temps, il y a des bas, il y a des ambiguïtés, des quiproquos autour, notamment de la proportion de beurre. Là, on a une version avec 1 kilo de pommes de terre rat, car c'est bien la variété qu'il utilisait. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Oui, concernant la variété de pommes de terre, on est d'accord qu'il n'utilisait pas, et c'était la grande nouveauté, une pomme de terre à chair tendre, mais une pomme de terre nouvelle à chair ferme, en l'occurrence la rat du Touquet.
C'est ça. C'était fait justement par un agriculteur qui produisait quasiment que pour lui. Et,
oui.
La rate du Touquet, il y avait un beau calibre, une bonne calibre de pommes de terre. C'est des grosses rates, hein, pas des toutes petites, hein, bien évidemment.
Mm-hmm.
Et voilà.
Même si on imagine quand même, et vous avez dû passer par là aussi, que l'épluchage à chaud de la pomme de terre qui avait cuit, ça c'est une règle Robuchon, dans sa peau, hein, il fallait pas l'éplucher avant, sinon il nous dit que la purée aurait été trop aqueuse, c'était quand même très fastidieux, non?
Et non,
une sacrée besogne de d'éplucher.
Mais c'est ce qui fait le secret de la cuisine.
Bien sûr.
Il y a des étapes à passer. Si on passe au-dessus, le résultat n'est pas là.
Bon, alors le beurre. Quelle quantité de beurre? Si on veut la faire à la maison comme ça.
C'est un secret, le beurre. Non, c'est vrai que quand il dit un kilo de pommes de terre de pulpe, je dis bien un kilo de pulpe de pommes de terre.
Une fois qu'on a ôté la peau.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on cuit.
On pèse après épluchage.
On pèse après.
Avant et après. Ça me brûle les doigts.
Oui.
On pèse après épluchage.
Oui,
et
exactement. Mais il y avait surtout tout un process. C'est-à-dire que le beurre, on donne 250 grammes pour un kilo. On pourrait mettre un petit peu plus si on est gourmand.
Allez.
Certains.
Ça consiste en quoi un petit peu plus?
Ça dépend. Certains ont fait des polémiques en disant même que c'était tant pour tant. Alors vous imaginez mettre tant pour tant de beurre.
Ah oui. Tant pourtant, ça veut vraiment dire la même quantité de pommes de terre et
un
de
kilo,
beurre.
Un kilo, tranquille.
Donc, ça existait ou pas, ça?
Non, absolument pas.
On a entendu aussi, Frédéric Simonin, soyons honnêtes, on a entendu aussi pour une bonne purée de Joël Robuchon, et moi, bon, on est dans le métier maintenant depuis quelques années, la purée de pommes de terre Joël Robuchon, c'est 750 grammes de beurre pour un kilo de pommes de terre. Possible ou pas?
Alors, c'est possible. Possible. Je dis bien attention, c'est possible parce que moi, je la fais comme ça.
Non. C'est donc une mayonnaise en fait.
Non, parce que, écoutez, le beurre taillé en dés réguliers de 2 cm.
C'est tout petit.
Posé sur de la glace. Un bon beurre frais, doux.
Il faut qu'il soit très très froid donc le beurre. Ça c'est très important. Froid.
Et surtout, le secret de cette purée, c'est rendre homogène le beurre et la purée sans que le beurre déphase. C'est-à-dire sans que le beurre se liquifie. Parce qu'un beurre, vous pouvez en manger. Il y a plus de cholestérol dans un beurre rôti dans une poêle qu'un beurre frais. Donc vous voyez, les
auditeurs... Et puis on se dit, pour se rassurer, ça, hein. Effectivement, comme le disait Joël Robuchon dans cet extrait, que c'est a priori moins calorique que les frites aussi, c'est ça?
Exactement.
On y croit?
Oui, bah oui, parce que les frites, c'est cuit dans de l'huile, hein, donc ça baigne dans du gras, tandis que là, le beurre, il n'a pas déphasé, il est rentré...
Ça va, si le beurre n'a pas déphasé, on est bien.
Voilà.
Et c'est on bon pour la peau.
Moi, j'arrête dans cette rentrée diète, elle me plaît complètement.
Frédéric Simonin, dans votre restaurant gastronomique du 17e arrondissement de Paris, il paraît que c'est l'un des seuls plats de Joël Robuchon que vous avez gardé tel quel.
Alors, j'ai la
tout
ligne
au moins au début.
La ligne de conduite. Oui, je l'ai mis à l'ouverture parce que j'ai ouvert le restaurant le 7 avril 2010,
mm-hmm.
Tout comme beaucoup de restaurants que Joël Robuchon avait ouvert le 7 avril aussi. Il est né le 7 avril. Donc,
vous avez un fils qui est né le 7 avril.
Et absolument, mon petit garçon qui est né le 7 avril aussi.
Bravo à votre femme.
Vous êtes marqué à jamais par Joël Robuchon.
Oui, tant mieux. C'est pour moi, c'est un bel exemple. Mm-hmm. Ah ouais. Du moment que je sais garder mon identité et que je sais l'honorer, voilà, c'est une belle chose.
Et cette purée, vous ne la servez que le 7 avril.
Non. Non, non, on a encore servi hier soir au service, à toutes les tables, parce qu'on l'offre en plus. C'est quelque chose, c'est du partage.
Voilà, juste pour revenir à la recette, lait chaud. On incorpore du lait chaud ?
Alors, on peut l'incorporer chaud et froid.
D'accord.
Tout dépend, justement, comme je vous ai dit, on rend la purée homogène. C'est-à-dire que si on fait chauffer la pulpe, il faut qu'on mette le beurre bien froid dedans. Oui. Il faut qu'il y ait une température qui soit faite de manière à ce que le beurre ne fonde pas. Et ensuite, si on voit que ça commence un petit peu à devenir gras, ce qui n'est pas le cas généralement quand on l'a fait correctement, c'est 45 minutes la purée de Joël Robuchon à faire. C'est pas 5 minutes.
On peut s'y aventurer à la maison ?
Ah bien sûr.
Oui.
Ouais, absolument.
Donc, 1 kg de pommes de terre râpées, épluchées à chaud après la cuisson, on est d'accord. 250 g d'un bon beurre doux,
absolument.
Frais, ouais. Important, qu'on incorpore. Alors là, on foisonne en quelque sorte, on émulsionne.
On incorpore à la spatule tout doucement le petit beurre. Et on ne met pas toute la quantité d'un coup.
Oui, bien sûr.
On fait petit à petit, on fait 50 g par 50 g, on va dire.
Et le lait intervient après.
Et après, on met un petit peu de lait, au moment, pour remettre un petit peu d'homogénéité. Mm-hmm. Et puis après, il y a surtout le coup de bras, comme il disait dans l'émission Bon Appétit, bien sûr.
Et vous tamisez quand même à la fin ?
Et on passe au tamis fin, extra fin, un tamis japonais.
Ce qu'on n'a pas toujours à la maison quand même.
Voilà.
Et il faut avoir desséché la pulpe de pomme de terre ?
Oui. Avant, au préalable.
Quand on dit desséché, c'est après épluchage.
Après épluchage, on la passe au moulin.
C'est ça.
On la met dans la casserole.
Oui.
Et puis là, l'action de 2 minutes, on fait évaporer le maximum d'eau qui pourrait rester.
Pour comme une pâte à choux, quoi.
Absolument.
Pour obtenir la quintessence de la pub, comme une pâte à choux. Ça y est, c'est la diplômée du CAP qui parle, Estelle Payani.
Ok, je ferai les choux. Surtout, la purée, la pomme de terre, on la sort chaude, très 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 chaude, on l'épluche le plus rapidement possible, on la passe au moulin et on fait cette action. Parce que quand elle est froide, elle corde, elle devient élastique et là, c'est terminé.
Je suis sûr qu'il y a plein d'amis derrière leur poste qui vont suivre vos conseils. Merci beaucoup Frédéric Simonin. Vous restez évidemment avec nous. On va continuer à évoquer Joël Robuchon. Il n'y avait pas que la purée dans la vie au fourneau de Joël Robuchon. Il y avait aussi la pomme de terre.
On va déguster.
Et Elvira Masson.
Ouais, c'était un peu sa passion, la pomme de terre. Pas uniquement sous forme de purée, exactement. En librairie, après Le meilleur et le plus simple de Robuchon, il publie toujours chez Robert Laffont en 1994 Le meilleur et le plus simple de la pomme de terre.
Vous avez le livre à vos côtés.
Magnifique livre.
Belle couverture,
édition originale. Ouais, très très beau livre.
Pour l'époque, 1994.
Photo d'Hervé Amiard.
Ça fait envie. Ces petites pommes de terre rissolées, comme ça, bien grillotées, colorées à la poêle.
C'est les pommes de terre grillées à cru. Ça,
avec de la fleur de sel. Bravo.
Je crois qu'Estérel le connaît par cœur, le bouquin. J'ai beaucoup raté de recettes là-dedans. 100 recettes et pas une de trop. Pas une dont on se dit qu'elle est datée ou qu'elle est tirée par les cheveux, au contraire de pas mal de livres de chefs. C'est une merveille de livre pour cette raison. Moi, ce qui me touche aussi, c'est la démarche. Voilà le plus grand chef de son époque, qui ne se dit pas à ce moment-là qu'il va faire un grand livre à sa gloire, pour se mettre en avant, mais qui a un vrai travail à livrer sur la pomme de terre, un travail historique, un travail de recherche, un travail de compilation de recettes, que c'est une tâche sérieuse, et qu'il n'est pas là pour se mettre en avant. Alors, c'était un gros succès de librairie. Je posais la question à Déborah Dupont,
notre
camarade de la librairie gourmande. Alors, il est encore en vente en grand format, ce livre. Il continuait à se vendre. Il se vend un petit peu mieux depuis le départ de Joël Robuchon.
Mais c'est très bien vendu à l'époque.
C'est très très bien vendu, gros succès de librairie, mais comme tous les bouquins, les meilleures ventes étant celles qui sont liées à son émission de cuisine, bien sûr, et les petits formats que vous avez, Estérel, parce qu'ils sont pour la plupart tous sortis en livre de poche. Donc ça, c'est évidemment un carton en librairie.
Ah oui, Estérel a carrément déplacé sa bibliothèque de cuisine dans
ce livre. Je ne jamais sans ces livres. C'est pour ça que j'ai des poches, en fait.
Voilà.
C'est moins lourd.
Aux couvertures jaunies.
Alors on sait que le génie de Robuchon reposait entre autres sur son goût pour des produits très simples, mais dans une exception et des propositions qui les magnifiaient. Alors la pomme de terre en tête. Alors, évidemment, on trouve la recette de la purée dans sa version, j'allais dire, raisonnable. Parce que ce livre a été écrit avec le concours du docteur Patrick Sabatier, nutritionniste de son état, donc on n'est pas dans du temps pour temps là.
C'est quoi la proportion de beurre d'ailleurs ?
250 g de beurre.
Pour un kilo de
pomme de terre. Pour un kilo de rate ou de BF15. Donc ça pouvait être. Enfin, selon son.
Oui, oui.
Voilà.
C'est ça.
Alors. Évidemment, on trouve tout dans ce livre. Les apprêts classiques, la pomme duchesse, la pomme amandine, marquise, dauphine, toutes les déclinaisons de frites, des recettes régionales comme l'aligot, le clafoutis picard, le farçon de Bresse, des emprunts étrangers, le goulash, l'Irish stew, l'omelette du Valais.
Magnifique.
Je me suis arrêtée, moi, sur la série des salades de pommes de terre.
Eh ben oui.
Et j'ai pensé que celle-ci vous ferait plaisir, François Régis.
Ah ben enfin, je suis là
pour vous faire plaisir aujourd'hui.
J'ai déjà goûté.
Une salade de pommes de terre à la honfleuraise.
Bravo.
C'est vrai, c'est vous. Est-ce que vous pensez que la recette originale est meilleure que ma proposition,
elle est excellente, je ne peux pas vous dire mieux.
Elle est bien. Hein. Alors, elle est classe, cette recette.
Qu'est-ce qu'il y a dedans?
Vous l'avez goûté, les amis, ou pas?
Non, c'est que Frédéric, pour vous, François.
Vous êtes David?
Nous sommes privés cette année.
On va faire le service. Oh là là, elle est bonne.
500 grammes de rate, 25 centilitres de vinaigre de cidre ou de vin blanc bien râpeux, dit-il. 150 grammes de queue de crevette grise cuite, 150 grammes de petites moules cuites, et moi j'ai ajouté un petit peu de coque, parce que j'en avais chez mon poissonnier. Deux petits oignons blancs, moi j'avais pas d'oignons blancs, j'ai pris des oignons rouges de Tropea, hein, tant pis. Hein.
Mais c'est super. Donc
je
là,
sais que normalement il faut être très très précis quand on cuisine un crebuchon, et moi j'ai du mal.
Là vous évoquez un oignon du Calabre.
Exactement. Deux cuillères à soupe de persil, cerfeuil, estragon, civette. Bah, j'avais que persil et estragon, hein, donc voilà. Une mayonnaise moutardée, deux jaunes d'œufs, une cuillère à café de moutarde, huile, quelques gouttes de vinaigre, sel, poivre. On fait cuire les pommes de terre à la vapeur, avec la peau. On les épluche évidemment encore chaudes. J'ai le bout des doigts qui s'en souvient.
Oui, parce que vous dites ça sur un ton un peu fatigué.
Oui, je suis un peu blasée de ce qui s'est passé hier soir.
Dans un torchon, hein. C'est ça le truc.
Et voilà, on les arrose un petit peu de cidre, on réserve et on prépare. Voilà, on cisèle les herbes, on émince les oignons et on prépare sa mayonnaise moutardée.
Mais c'est une franche réussite. On est d'accord ou pas, Frédéric?
Je suis en train de déguster.
Soyez libre de votre avis. Hein.
Je suis en train de déguster, c'est très bien réalisé. Hein.
Ah bon?
Ah, c'est bon.
Alors, les petites coques, en plus, Joël Robuchon, il aurait posé cette question. On met des coques dedans dans la salade?
Bah, en vrai, non.
Parce que vous savez,
mais moi, j'adore les coques.
Vous connaissez déjà la réponse.
Moi, je
j'adore les coques,
y a un
donc
bel
j'ai pas pu résister.
J'aime beaucoup la texture de la pomme de terre, d'ailleurs. Parce qu'elle est encore un peu ferme, elle fond au milieu de bouche.
Elle aurait pu cuire une minute de plus, hein. On va pas se raconter d'histoire.
On te sentait pressé.
C'est du Robuchon maçon, en fait.
C'est du Robuchon maçonnisé, voilà. C'est ça.
Ben, franchement, non. Bravo.
Mais une des 100 recettes extraordinaires de ce bouquin, dont les photos sont signées Hervé Amiard. Amiard qui a ouvert cette auberge fabuleuse en Normandie que vous aimez beaucoup, François Régis, et dont le nom m'échappe évidemment.
Moi aussi, je vous remercie. Mais à... le nom m'échappe aussi. Mais...
On va retrouver, on va la mettre sur
Beaumont,
non, c'est pas
Beaumont. Bon, on retrouvera. Mais vous avez raison. Et en tout cas, bravo. Robert votre recette Laffont. À retrouver sur FranceInter.fr à la page On va déguster. Évidemment, on va évoquer le versant œnophile de Joël Robuchon avec notre ami Antoine Gerbel. Spontanément, là, comme ça, Joël Robuchon, il aurait fait quel accord avec cette salade de pommes de terre rate aux moules, oignons frais?
Alors, un cidre bien brut.
Alors, Joël Robuchon n'aurait pas fait d'accord. Parce que Joël Robuchon avait un homme lige, c'était le grognard des grognards, qui s'appelle Antoine Hernandez, qui arrivait en 1900.
Que vous avez connu, Frédéric Simonin.
Il était le directeur de salle de la table de Joël Robuchon quand j'étais chef.
Ouais, bah oui,
voilà. Il arrivait en 84 rue de Longchamp, ils se sont jamais quittés. Et alors, c'est très marrant parce qu'il y a encore un homme intermédiaire, qui était très connu à l'époque, s'appelle Guy Renvoisé. Guy Renvoisé, c'était un marchand de vin qui avait la plus belle carte de Bourgogne. Et il avait été vraiment très très lié avec Joël Robuchon. Et aujourd'hui, j'ai discuté avec Antoine Hernandez pour remémorer un petit peu les grands souvenirs de salle. Il me disait, on travaillait en triangulaire. C'est-à-dire que moi, je faisais des propositions à Hernandez, qui revenait avec des vins, je faisais goûter à Robuchon. Mais il avait une énorme confiance. Hein. Il avait choisi, il faut savoir qu'il était embauché à Hernandez. Il quittait un poste, je crois, dans le sud de la France. Et c'est Guy Savoie qui lui dit, tiens, j'ai croisé un gars qui devrait te faire ton affaire comme sommelier. Et il appelle Joël Robuchon et il dit, vous voulez que je vous... Non, il me dit, c'est pas la peine. C'est pas la peine, j'ai confiance dans les relations que vous avez. Il était comme ça aussi, hein, Joël Robuchon. Il y avait quand même des gens qui... Il y a un groupe de gens qui partaient toujours dans le bon sens.
Alors, une forte capacité à déléguer.
Rapidement, les vins. Alors, Antoine Hernandez, c'est un gars du Languedoc. Hein, il y a un bel accent viterrois. Donc, dès les années 80, c'est le premier à avoir mis des grands vins du Languedoc. La Grange des Pères. On avait aussi les Faugères de chez Alquier. On avait Saint-Prieuré de Saint-Jean-de-Bépian. C'est la première fois que ces vins-là accédaient à une grande table 3 étoiles. Il faut voir qu'il y a eu vraiment un rôle de découvreur de la part de...
Donc, il y avait une certaine prise de risque au début.
Oui, tout à fait, parce qu'il faisait confiance, encore une fois, à ces gens. Après, lui, son goût était assez sudiste, assez sucré. Ses vins préférés, c'était Château Rayas, le fameux château neuf du pape d'Emmanuel Reynaud. Il adorait aussi Chaves, les ermitages de Chaves, parce qu'il partageait une amitié avec Gérard Chaves, le grand producteur, le père de Jean-Louis, aujourd'hui producteur. Parce qu'il était ça. Il y avait de l'humain toujours derrière. C'est-à-dire que les vins qu'il aimait bien, c'était forcément des hommes qu'il avait rencontrés. Et notamment, on voyait beaucoup le champagne aujourd'hui Veuve Clicquot, parce qu'il était lié d'amitié avec Dominique de Marville, qui est un chef d'œuvre extraordinaire, très humain aussi. Donc voilà, tout se faisait un petit peu dans ce côté, dans ces liens-là. Donc la carte, elle était magique. On a dit qu'il était né en avril, il était de 45. Donc il a eu droit aussi à ce millésime mythique à peu près partout dans le monde, à chaque fois qu'il arrivait, on lui ouvrait un 45. Et notamment, il avait un associé en Orient, hein, Monsieur Chou, Monsieur O, et qui est une des plus belles caves au monde. Et il a bu des IKM 45. Soit, il en parlait, mais il en faisait profiter énormément. Et alors, j'ai retenu deux phrases d'Antoine Hernandez. Je me suis mis derrière sa roue, mais il fallait pédaler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de Cornouchon. Je pense que là, c'était intéressant. Et puis, il disait aussi,
on imagine bien la métaphore du vélo, là.
Et il disait autre chose, il était excessif dans le travail, mais il était aussi excessif quand il fallait déconner. Et ça, j'aime bien parce que c'est une face qu'on n'imagine pas de Robuchon, quelqu'un un peu austère. Et quand il se lâchait, il pouvait aussi boire du vin, on peut dire, à profusion.
Vous confirmez, Frédéric Simonin ?
Alors, je confirme le côté plus travail, hein, parce que après le reste, ça reste personnel, je ne dirai pas plus.
C'est ça. Mais est-ce qu'il avait cette dimension de bon vivant ?
Il
Évidemment.
Avait, et comme dit Antoine, absolument, c'est-à-dire qu'il y avait l'humain derrière. Mmh. Donc ça, c'était son cheval de bataille, hein, l'humain.
L'humain.
Ouais, absolument.
Et vous en êtes la preuve, puisque vous avez été son compagnon de route et chef de cuisine pendant 5 ans. Et d'ailleurs, je crois savoir que Joël Robuchon, la dernière préface qu'il a signée avant sa mort, c'est pour votre livre qui sortira en novembre prochain.
C'est ça, qui va sortir le 7 novembre.
Préface de Joël Robuchon.
Et qu'il a fait en avril, voilà.
Votre livre s'appellera ?
Ça va s'appeler Frédéric Simonin, La cuisine d'un chef engagé.
D'accord, aux éditions ?
Aux éditions Chêne.
Aux éditions Le Chêne, très bien. Esther El Payani, votre relation à Joël Robuchon ?
Moi, le paradoxe, c'est que ce que je connais le mieux de Joël Robuchon, c'est Patricia Wells. Parce que Patricia Wells, c'est elle qui a écrit son livre Le meilleur et le plus simple de Robuchon. Et quand il est sorti en 91, je me souviens, j'étais en train de réviser mon bac. Et entre deux révisions, j'allais faire à mon frère et à ma sœur sa recette de mousse au chocolat, qui est absolument géniale, qui contient un tout petit peu de crème épaisse dedans. Et ça change tout. Et justement, je me souviens d'avoir lu ce livre avec tout le détail dans les recettes, des précisions inouïes de tous les gestes. Et c'était Patricia Wells qui avait tenu la plume, une journaliste américaine qui a cuisiné pendant 4 ans avec lui pour réussir à écrire ce livre. D'ailleurs, en VO, ça s'appelle Simply French, Patricia Wells Presents the Cuisine of Joël Robuchon.
With the accent,
parce qu'à l'époque, aux États-Unis, elle était plus connue que lui. Elle était d'ailleurs une des premières critiques gastronomiques au féminin pour le International Herald Tribune pendant 27 ans, mais aussi pour l'Express de 88 à 91, comme vous, François Régis.
Je suis au courant.
Elle racontait d'ailleurs qu'avant d'aller chez Jamin pour préparer l'ouvrage, elle se maquillait et elle se coiffait avec un soin particulier, parce que cuisiner avec lui, c'était comme aller à l'église. Et elle disait toujours que sa manière de cuisiner n'avait plus été la même après avoir travaillé avec lui.
Évidemment,
parce que je la cite.
A été marquée au sceau de Robuchon.
L'enseignement de Robuchon vous fait comprendre que même si la perfection n'est pas de ce monde, il n'y a pas d'excuse pour ne pas chercher à l'obtenir quand on fait la cuisine. Et moi, après ça, j'ai plongé dans toute la bibliographie de Patricia Wells. Je suis allée acheter les 200 meilleures recettes de bistrot, les recettes des marchés et restaurants de Paris. Et pour tous ceux qui veulent connaître un peu la cuisine française, paradoxalement, cette américaine nous l'a sacrément bien décryptée.
Absolument.
Moi, je la suis sur Instagram et elle poste encore aujourd'hui des photos de plats. Elle cuisine tout le temps encore.
Et ses recettes,
elle est assez passionnante à suivre.
Et elle a une école de cuisine en Provence aussi. C'est un peu la grand-mère de Mimi Thorison.
Et ses recettes ont la réputation d'être extrêmement rigoureuses. Vous avez rencontré Patricia Wells ou pas?
Oui, à l'ouverture en 2004 de la table.
Et oui.
Donc je peux vous dire que ce jour-là, je m'en souviens parce que Monsieur Robuchon m'avait dit attention, hein, tu fais très attention. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Et on avait eu un très bel article en plus qui était sorti justement. Parce qu'elle écrit
dans le Herald Tribune.
Exactement, ouais.
Très bien, merci Frédéric Simonin. Vous restez avec nous dans un instant. Une petite recette surprise signée Frédéric Simonin. C'est une tarte avec un fruit très de saison, la Mirabelle. Un point sur les vendanges avec Antoine Gerbel. Quelques trucs de cuisine à droite, à gauche, signés de nos amis chroniqueurs. Tout de suite, on écoute les Gauloises bleues de Clou. Vous allez sans doute reconnaître une reprise de Yves Simon.
On fumait des Gauloises bleues. Les beaux jours, on fumait les Gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux. Ah, les beaux jours, les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison. Au café du bas de l'Aisne, parfois je voyais Verlaine. Ah, les beaux jours. criait au-dessus des printemps, nous disait du haut de ces nuages d'où venait le vent. Jefferson Airplane s'installait à la présidence, car les anciens rois du monde venaient d'interdire la danse. Plus de boutique à music hall, au boulevard du rock'n'roll. Les beaux jours. Le temps a passé, court-circuité les amplis. Bruno maintenant joue de l'accordéon dans les rues du Clichy. Arrivait juste à temps pour la révolution. On fumait des gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux. Les beaux jours. Les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons. Voici les fleurs du mal poussaient encore en cette saison.
Va déguster, fait sa rentrée pendant qu'Elvira cherche impatiemment une cuillère pour goûter une recette que nous prépare notre invité. C'est le fils de cuisine ou l'un des fils de cuisine, il en a eu pas mal, de Joël Robuchon, Frédéric Simonin, chef étoilé à Paris, qui met la dernière touche à une...
Une tarte aux mirabelles.
Une tarte aux mirabelles, ça tombe bien, c'est une prune de saison qui nous vient de Lorraine. Le cru, le millésime 2018 pour la mirabelle est particulièrement intéressant. Elles sont croquantes, juteuses, charnues, sucrées. C'est un fruit qui a toutes les qualités. Et si on en a quelques jolies poignées, on peut faire une très belle tartelette à la maison. Vous nous l'expliquez, Frédéric Simonin ?
Ah oui.
Tout le monde se régale.
Une tartelette, alors. Soit on la fait en tartelette, ou soit on peut faire une belle poêlée de mirabelle aussi. Simplement, hein.
Parce que vous avez fait les deux, poulet de mirabelle sur une tarte.
Exactement.
Expliquez-nous.
Donc, là, les mirabelles, pour les prendre, on les laisse entières avec le noyau, bien évidemment, avec la peau aussi, c'est ça le secret de la mirabelle, justement. Et puis, on les fait poêler avec un petit sirop. Un petit sirop, alors pas spécialement un sirop à 30 où on met tant pour tant de sucre et d'eau. On met un sirop à 15, donc c'est-à-dire moins de sucre que d'eau, d'accord. On met une gousse de vanille, un zeste de citron jaune dedans. Et puis, on met un petit peu de pain d'épices.
Attendez, redites-nous à 15, Estherelle.
Sirop. 50 grammes de sucre pour 100 grammes d'eau.
Et mais
ça fait 15,
c'est
ça,
ça. Oui, c'est ça. En fait, un temps pour temps, c'est 100 grammes, 100 grammes.
Oui.
Et là, un sirop à 15, c'est 50 grammes pour 100 grammes d'eau.
Très bien. Elle a bien eu son CAP.
J'ai pas fait pâtisserie pourtant.
Bravo. Donc, un petit sirop, on va dire, assez léger.
Un petit sirop léger. Et puis, pas besoin de mettre une matière grasse. On fait chauffer la poêle légèrement. On fait éclater les petites mirabelles parce qu'il y a son sucre naturel qui fait ressortir un petit peu et caraméliser.
Les a-t-on dénoyautés préalablement?
Non.
Absolument pas.
Il l'a dit?
Oui.
Pardon, j'étais
ailleurs. Comme le clafoutis avec les noyaux.
D'accord.
On crache les noyaux pendant ce temps.
Mais c'est ça.
Et de la vanille.
Et de la vanille.
Très bien.
Elle a fait un petit peu de vanille. Et surtout, c'est le pain d'épices dedans qui fait
belle, cette vanille.
Et elle est belle, cette poêlée de mirabelle. Tout le monde se régale. Elle virait un petit commentaire?
À votre avis.
Oh là là.
Non, c'est formidable.
C'est formidable. L'assiette d'Elvira, il n'y a absolument plus rien. Il reste 6 noyaux.
C'est pas sympa. Il va donner que des noyaux.
C'est tellement bon.
Non, c'est vrai.
La mirabelle cuite comme ça, en plus, elle prend tout son, enfin, c'est vraiment son plus bel aspect, quoi. Elle est longue en bouche, elle est hyper profonde, hyper sucrée.
Bah, on voit ça, oui.
La vanille. Ah non, mais puis, cette pâte à tarte est une merveille.
Et si on veut faire une tarte?
Alors, pardon, parce que je suis en train de manger la mirabelle.
Version ménagère, hein, la tarte, Frédéric.
Petite tarte, hein, petite farine tamisée, un petit beurre, hein, encore du beurre. Mais le beurre, c'est très très voilà. Bon.
C'est la vie.
Pâte sablée, quoi.
Voilà, hein, on l'a fait une petite pâte sablée. On peut mettre ce qu'on veut dedans, un petit épice léger, mais pas trop, parce qu'il faut laisser la mirabelle avec son goût subtil. Et puis après, on se fait une petite crème aux amandes très légère qu'on met un petit peu dedans, dans le fond de la tarte, et une petite mirabelle collée.
Poudre d'amande, beurre, œuf.
Voilà, le classique, hein, bien fait, bien réalisé.
Ce qui est génial, c'est la note de citron, en fait, parce que souvent, je reproche à la mirabelle d'être que sur le sucre.
Oui.
C'est ça qui fait son délice, hein, d'ailleurs. Hein. Ça apporte la micro-pointe d'acidité qui la met vraiment en valeur, je trouve.
Mais vraiment, tartelette brillante, on vous félicite, Frédéric Simonin.
Il en reste un petit peu au fond de la casserole,
oui,
je pense
que
ça va être pour
très longtemps.
Absolument. On vous avait promis, et on le fait à l'instant avec notre ami Antoine Gerbel, qui s'occupe, avec quelques autres, du service du vin au sein de cette émission, un point sur les vendanges. On est en plein dans la période de ces vendanges. Vous avez parcouru, Antoine, pas mal de vignobles de France, du nord au sud, ces dernières semaines. À quoi va ressembler le millésime 2018?
Alors, tout le monde en a une petite idée de cet aspect exceptionnel qu'on est en train de vivre, puisque le beau temps continue à rayonner sur quasiment tous les vignobles de France. Mais là, on commence un petit peu par la fin. Il faut rappeler qu'on a eu un hiver et un début de printemps archi pluvieux.
Eh oui.
Terriblement pluvieux. Et tant mieux pour le sud, parce que les réserves d'eau étaient là. Tant mieux pour le nord aussi, même si on s'en serait passé, parce que avec la pluie arrive ce phénomène terrible qui est le mildiou. Le mildiou, tous les jardiniers le connaissent pour c'est l'ennemi de la plante tomate, l'ennemi des pommes de terre, et c'est aussi, bien évidemment, l'ennemi du raisin. Énorme perte dans certains secteurs. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Le mildiou, il y a une petite guéguerre qui existe aujourd'hui en disant les vignerons bio, ils ont perdu tout. On a lu ça dans la presse. On a eu, on veut dire, un peu un discours dominant en disant le bio a complètement raté son millésime parce qu'ils n'ont pas pu traiter le mildiou. Je dis non et non. Les grands vignerons ont réussi à passer à travers le mildiou. Ils ont travaillé énormément. Ça veut dire simplement qu'il fallait faire beaucoup de passages, beaucoup de traitements, surtout avec, on souffle, le cuivre qui était là pour essayer d'atténuer.
C'est la bouillie bordelaise.
Exactement, pour atténuer ce champignon. Mais les grands vignerons sont passés à travers. Mais c'est pas forcément bio, c'est une question de travail. Bien équipé, aujourd'hui il faut avoir le bon matériel pour bien justement viser ce qu'il faut sur le raisin et éradiquer ce champignon. Donc arrêtons cette polémique stupide, je connais plein de vignerons bio qui ont fait très bon, je connais bien de vignerons pas bio qui ont réussi à avoir beaucoup de raisins. En même temps le profil qui se dessine, beaucoup de chaleur, il faut savoir que le nord a commencé très très tôt les vendanges, en Champagne on est quasiment au milieu des vendanges, alors que le sud n'a pas commencé, que le Languedoc n'a pas commencé, que les Carignans, les fameux raisins du sud, n'ont à peine verré à la fin du mois d'août. Donc on a une année à l'envers, vraiment. Les vignerons disent souvent, moi j'ai l'habitude d'avoir un chemin de vendange, où je commence par telle vigne, telle autre vigne, aujourd'hui tout est inversé. Il faut être un grand observateur de son vignoble, on ne peut pas faire les vendanges à distance, on ne peut pas faire les vendanges télécommandées avec des prestataires de service. Ça sera une année de vignerons qui ont vraiment les pieds sur terre, et ça je dis aussi bien pour les grands châteaux bordelais, les grandes champagnes, que le petit vigneron du Beaujolais dont on va parler.
Ah, petit vigneron du Beaujolais, ça nous intéresse, du Gamay dans nos verres.
Voilà, c'est mon coup de cœur de la rentrée. Mon coup de cœur de la rentrée, c'est le Beaujolais. Le Beaujolais, c'est il faut pousser le Beaujolais. Les crus marchent bien, on les trouve maintenant partout, vous avez les 10 fameux crus. Et puis le Beaujolais village du sud du Beaujolais, et ben il peine encore un peu, il est un peu dénigré. Moi j'ai trouvé un vigneron extraordinaire que m'a soufflé à l'oreille notre ami Sylvie Augereau, puisque cette année il faisait son premier salon de la Divine Bouteille. Il s'appelle Sylvère Trichard, il a 38 ans, donc c'est un jeune vieux vigneron. Il a commencé seulement en 2012, il a repris les vignes en partie en biodynamie de son oncle. Il fait des vins dans la mouvance sans soufre, mais avec beaucoup, beaucoup de texture, de la maturité. Il apprend, il dit lui-même, je suis en permanence en apprentissage. Il est aidé par des grands, il est aidé par Sylvestre, il est aidé par La Palue, il est aidé par des vignerons, on va dire le groupe de vignerons très fort qui pousse en ce moment les vins nature du Beaujolais. Goûtez-moi ce 2017, ça s'appelle Sélénée, comme la déesse de la lune chez les Grecs. Ça raconte une belle histoire, l'étiquette est très belle, ça raconte plein de belles choses.
Le prix, Antoine Auchureau, on est obligé d'arrêter malheureusement.
De 12 euros. Voilà.
Pour la cuvée Sélénée, vous nous rappelez, Sylvère
Trichard.
Merci beaucoup Frédéric Simonin pour une cinglante expérience gastronomique. Il y a votre restaurant du 17e arrondissement, 25 rue Bayen. Estherelle Payani devait nous parler, devait nous faire toute une leçon autour de la verveine. Elle reviendra pour consacrer une chronique à cette herbe qui la rend absolument accro. La semaine prochaine, on va déguster par en vadrouille. On dresse le couvert à la fête de la vache nantaise dans le pays de Redon. Vous pouvez assister à l'émission samedi à 15h au cœur de la fête de la vache nantaise qui se déroule à Plessé en Loire-Atlantique. Et Elvira Masson et Arnaud Daguin seront du voyage. Dans un instant, question politique fait sa rentrée avec Ali Badou. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.
Et bon appétit, bien sûr.